est pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, voici Victor. Salut Victor.
Bonsoir.
Anne-Marie sera là également pour sa chronique économie et enfin le duo de sportifs Charlotte et Julien pour le débrief du week-end. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Et pour commencer la semaine, voilà le billet d'humeur de Victor qui a suivi la soirée électorale de très près.
Oui, grosse soirée hier. Du suspense, des surprises, de l'attente et des amuse-gueules. Oui, hier j'étais à la préfecture pour compléter mon stage sur les municipales. Aux côtés de nombreux journalistes, Courrier de l'Ouest, France 3, Courrier de la Mayenne, oui, Ouest-France, etc. La carte de presse en étrangleur autour du cou, du beau monde, quoi. Oui, mais il n'y avait pas Radio Campus. Où étais-tu, Tiffaine, enfin ?
Ah, j'étais dans la rue, moi.
C'est à ce moment précis que je me suis senti appartenir à une grande famille, Radio Campus. Un devoir, une mission auprès de mes collègues, les informer sur la soirée. Et puis, il faut l'admettre, voyant tous ces journalistes avec leur smartphone vissé aux oreilles, le Macintosh carburant sur TNS Sofres, cette ambiance de salle de marché Wall Street. Oui, je me suis moi-même prêté au jeu. Et quel jeu ! Nos traders journalistes réclamant à ces sympathiques vacataires, toutes les deux secondes des nouvelles tendances des résultats d'Angers, avaient l'air de composer leur tiercé gagnant. Et c'est finalement France 3 Région, qui passait en boucle dans cette salle de réunion métamorphosée en service de presse, qui nous annonçait les résultats définitifs. Tant pis, on n'a pas eu la primeur, mais on a eu le sentiment qui allait avec, et surtout un superbe buffet. Alors, ceux qui n'ont pas le score de la course, l'ordre des chevaux est le suivant. Béchu en premier, avec 35 secondes d'avance. Une belle course. Ensuite vient Beatz, avec 8 secondes d'écart. Et puis la surprise, Roturo, ce cheval pur sang angevin, sur lequel PMU discutait beaucoup, nous arrive avec 16,21%. Et notons-le, Géraud, souvent décrié par les parieurs, fait une belle envolée avec 7,44%. Coupons le fil de la métaphore. C'est un sujet trop sérieux. Hier, Béchu annonce à France 3 qu'il ne fusionnera pas. Bien qu'étonné, je me serais mal imaginé Christophe avec un chapeau pointu sur la tête scander « Ouais, je viens d'avoir GG, Roro, Fontel, là, c'est bon, hein, les mecs, c'est bon, je suis maire. » Oui, mais quelle suite pour la campagne ? Roturo, le troisième homme au slogan « Prêt à faire autrement », est lui-même confronté à cette formule en abandonnant l'aventure électorale. Ce ne sera pas une triangulaire qui donnera gagnant bébé Sarkozy. Ceci donne l'espoir aux socialistes implantés à Angers depuis 37 ans de conserver la mairie. Et ce candidat centriste, Laurent Géraud, qui a dit avoir sa petite idée sur un candidat plus rassembleur qu'un autre, verra-t-il finalement certains de ses colistiers fusionner dans la liste de Béchu ? C'est une incertitude totale qui règne, et les résultats du scrutin si attendu ne font qu'appuyer ce doute. Diran, représentant la liste FN, nous fait un score beaucoup moins important que ses co-religionnaires des autres villes de France. Excepté aux dernières présidentielles, le FN n'a jamais été très important à Angers. Cependant, il reste un enjeu de taille pour le second tour. Diran pense être l'arbitre de cette élection, c'est-à-dire une aide pour Béchu, qui doit maintenant se positionner, d'après ses propres mots, pour battre la gauche. Sauf que c'est mal connaître l'électorat FN d'Angers, et surtout le renouvellement idéologique de son parti. Si on fait un peu de géopolitique et que, comme moi, ce matin, on avait trois quarts d'heure à rien foutre, on peut s'amuser à remarquer, grâce aux chiffres du Courrier de l'Ouest et une carte des bureaux de vote, d'Angers, que les quartiers où le vote FN est le plus important, ce sont ceux de la périphérie d'Angers. Pour les nommer, la Roseraie, Belle-Bey, les Hauts-de-Saint-Aubin, la Madeleine, Saint-Léonard-Justice. À ajouter aussi que ces zones votent majoritairement à gauche, selon les résultats des dernières élections. Enfin, il faut mettre en évidence la fine connaissance de Beatz pour les milieux associatifs de ce secteur. Vous l'avez donc compris, le FN a très peu de chances d'être un réservoir de voix pour la droite. N'en déplaise au gouvernement, le FN ici, à Angers, marche dans les quartiers ouvriers. Mais cela peut les rassurer, car ces mêmes circonscriptions votent à gauche au second tour. Voilà, tout est dit pour ce premier tour et je ne ferai pas de pronostic sur le ticket gagnant du prochain. Je mets juste en évidence le fait qu'il va y avoir beaucoup de reports de voix pour la gauche, pour Beatz, qu'il est possible que Géraud lui-même s'allie au candidat socialiste, que Roturo s'est désisté de cette campagne de second tour et que ceux qui ont voté pour le Front ne représentent pas un électorat de droite traditionnel mais plutôt de gauche contestataire. Je vous laisse terminer le raisonnement et parier sur les bons chevaux ce coup-ci. Une chose est sûre, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Allez, à la semaine prochaine.
Merci Victor, à la semaine prochaine. Et pour répondre à ta question du début de ton billet, hier j'ai arpenté les rues angevines pour me rendre de QG en QG dès que les premières estimations sont tombées et avant les résultats définitifs que tu viens de nous annoncer.
Bureau 108, pardon. CB 3676. Beatz 2390. Roturo 1906. Géraud 499. et d'Iran 907.
Il est un peu plus de 20h30 au local de campagne de Christophe Béchu, rue Voltaire. Les sympathisants reçoivent les résultats bureau par bureau.
Je trouve ça plutôt bien, moi je suis plutôt contente. Mais après c'est sûr que tant qu'on n'a pas les chiffres définitifs, on ne faut pas trop se réjouir trop vite non plus. Mais là, vu les derniers chiffres qui viennent d'arriver, ouais, c'est satisfaisant vu le travail qu'on a fourni. C'est plutôt bien. Ouais.
Très optimiste. Nous pensons que nous allons gagner, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ma réaction.
Les pronostics de report de voix font déjà partie des conversations.
Laurent Gérault fait un score tout à fait convenable. On peut souhaiter qu'il y ait un fort report de voix de Laurent Gérault, et pourquoi pas du FN, sur Christophe, pour la victoire finale.
Je ne crois pas qu'il y ait une triangulaire. Je pense qu'il va y avoir que... Je pense, parce que M. Rotureau va se retirer certainement.
À cette heure-ci, Jean-Luc Rotureau est encore la grande inconnue du second tour. 21h, direction Place en Bac. Les sympathisants et colistiers de Jean-Luc Rotureau sont réunis dans un QG qui sent bon la betterave et le taboulé.
Alors on est juste en face du local de campagne, au restaurant Le Laboureur, qui nous accueille sympathiquement pour pouvoir se retrouver et partager un moment convivial tous ensemble. Voilà, on est à la bonne franquette, très simple, buffet froid, petit verre de vin, un petit demi au comptoir, voilà, donc de manière très sympathique.
Soudain, la porte du Laboureur s'ouvre. Le candidat fait son entrée. Il est alors crédité de 15% à 17,5% des voix.
Deux types de réactions pour l'instant. Une première réaction très personnelle, c'est une déception pour moi, parce que j'espérais plus, donc je pense qu'il faut être franc par rapport à ça. Et puis une autre réaction par contre très positive, qui reflète aussi l'avis de mes colistiers. C'est un score très très honorable, qui signifie que demain, quelle que soit la majorité, elle ne peut ignorer notre projet, notre vision de la politique, notre souhait de faire autrement, comme on disait en début de campagne. Donc ce soir, je n'aurai pas d'autres déclarations.
Dernière étape de la soirée, l'hôtel de ville. En marge du plateau d'Angers Télé, les colistiers et militants de Frédéric Béat sont réunis. Là encore, c'est Jean-Luc Rotureau qui occupe les conversations.
Je n'imagine pas une triangulaire. Je pense que les deux candidats avaient toujours dit que celui qui arriverait en tête aurait le soutien de l'autre. Alors après, ça peut se faire de deux manières, hein, soit un désistement, soit une fusion, mais j'imagine pas une triangulaire. Non.
Est-ce que vous pensez qu'au second tour, une entente avec Jean-Luc Rotureau est possible ?
À ça, vous posez la question à Jean-Luc Rotureau et à Frédéric Béat.
Jean-Luc Rotureau qui a finalement décidé de se retirer ce matin sans donner de consigne de vote. Allez, on referme notre page municipale et on passe à notre discussion.
Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Albert Camus, parlant du théâtre, ce soir nous allons donc en parler, nous aussi, et plus précisément du festival Les Trois Coups qui a commencé lundi dernier le 17 mars et qui s'achève le 3 avril prochain et dont Radio Campus Angers est partenaire. Bonsoir Fiona Baucher.
Bonsoir.
Vous êtes présidente des Trois Coups. À côté de vous, Belinda Panhaleux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet au Tréteau de l'Université d'Angers et secrétaire du collectif Factuel. Et enfin, un homme, Cyprien Chevillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président des Improvisiacs, l'association de théâtre d'improvisation de la Cato. Peut-être que l'on peut commencer par revenir sur l'histoire du Festival des Trois Coups. C'est la 22e édition cette année. Autant dire que certains d'entre vous n'étaient pas nés pour les trois premiers coups. Et c'est en 2001 que tous les élèves de l'UCO qui le souhaitaient ont eu accès aux planches pendant ce festival. Fiona Baucher, vous êtes présidente de l'asso, vous pouvez peut-être revenir un peu sur les débuts du festival des Trois Coups.
Alors au début, en fait, c'était juste une option de l'IALH. Donc c'était l'option théâtre qui a décidé d'organiser un festival.
L'IALH, c'est l'Institut
d'Art, Lettres, Histoire de la Cato. Et en fait, après, l'option a fermé, mais les élèves ont toujours voulu quand même continuer ce festival. Et en 2001, du coup, ils ont décidé de faire une association. Donc c'est devenu une association et depuis, ils s'occupent toujours de l'organisation du festival. Ça perdure depuis 22 ans, donc il faut espérer que ça dure.
Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents à l'asso Les Trois Coups ?
Là, cette année, on est à une trentaine d'adhérents, à peu près.
On va piocher un peu dans tous les instituts ?
Oui, complètement. Bon, il y a quand même une majorité en arts, lettres, histoire, mais on en a de maths, de bio, enfin... C'est pas sectaire du tout.
Et alors en 2010, il y a plusieurs assos de théâtre étudiants, que ce soit de la Cato, de l'Université d'Angers, mais aussi d'autres écoles, qui ont décidé de fonder un collectif, le collectif Factuel. Alors il regroupe aujourd'hui les trois coups, les Improvisiaques, les Tréteaux de l'Université, les Zygomatiques, Didascali, Quiproquo, les Vanupiège, j'en oublie peut-être.
Cette année, l'IRCOM en plus.
L'IRCOM en plus.
Cette année,
ouais. Belinda Pointleu, vous êtes justement, je le disais tout à l'heure, secrétaire de ce collectif. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'unir les forces de tous les, de toutes ces assos de théâtre étudiants?
Du coup, bah, l'idée a germé en 2010. Donc, à la base, il y avait donc, les Tréteaux, les Trois Coups, les Didascali, Quiproquo, Vanupiège. Et donc, oui, chaque président des associations se sont réunis et... pour justement créer un endroit où chacun pourrait se rassembler, enfin chaque forme de théâtre, chaque association pourrait se rassembler au sein d'un même festival, plutôt que de faire chaque festival chacun de son côté. Donc du coup, c'est comme ça que Artefac est né. Donc et la première édition a eu lieu en 2011.
Artefac, on va y revenir. Donc c'est le festival de ce collectif Factuel.
C'est ça.
Ça a été facile de fusionner entre toutes ces assos-là. Est-ce que vous aviez les mêmes besoins à la base en 2010?
Les mêmes besoins,
Les mêmes envies peut-être.
Les mêmes envies sans doute, ouais. Parce que du coup, la plupart des présidents se connaissaient à l'époque, et donc il a été assez facile donc de s'organiser. Autour de ça, après, différents partenaires se sont proposés, donc le château du Plessis-Massé, le théâtre du champ de bataille, notamment, et le NTA. Et donc, du coup, tout ça a fait que voilà, le festival est né au final.
Concrètement, ça doit quand même permettre plus de visibilité. Vous parliez de partenaires, là, le château du Plessis-Massé, le théâtre du champ de bataille. J'imagine qu'à autant d'associations, on est plus visible.
Oui.
Peut-être plus crédible aussi.
Plus crédible, je sais pas. Oui, sans doute, ça doit apporter un peu plus de crédibilité. Mais visibilité, en tout cas, ça c'est sûr, oui. Parce que du coup, se représenter même, c'était une chance de pouvoir aller dans des théâtres ou comme le théâtre du champ de bataille ou le château du Plessis-Massé. Cette année, on a de nouveaux lieux. Donc, on a un nouveau lieu qui est donc l'espace culturel d'Angers. Donc ça permet, oui, à chaque pièce d'avoir une représentation dans un lieu qui est bien fait, qui n'est pas une scène de théâtre étudiante, enfin on va dire que c'est pas des tréteaux posés dans la nature.
Fiona Baucher, pour l'assaut les trois coups, ça a changé quoi de faire partie de ce collectif?
Déjà, ça se voit au niveau de la programmation. Enfin, on voit qu'à partir justement de 2010, là où vraiment le collectif s'est créé, aux trois coups, on a accueilli des pièces justement des Tréteaux. On a commencé à faire les joutes d'improvisation en faisant un match d'impro avec les différentes assos.
On décloisonne un peu.
C'est ça, oui. Donc ça permet déjà que ce soit pas un festival qui est juste pour les étudiants de la Cato, et ça permet à nos adhérents aussi du coup de rencontrer les autres assos. Et enfin, c'est vraiment. C'est plus varié et c'est plus enrichissant, je pense.
On va continuer à parler de l'association et peut-être justement de la place de l'improvisation, Cyprien, juste après cette pause musicale. C'est un nouveau titre de la programmation sur Radio Campus Angers. Ça s'appelle Song Oi Blues et c'est Soubourg. Vous écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes avec Fiona Baucher, présidente des Trois Coups, Belinda Panhaleu, chef de projet au Tréteau de l'UA et secrétaire du collectif Factuel, et Cyprien Chevillard, président des Improvisiaques. Alors maintenant que les présentations sont faites et qu'on a compris qui était le collectif Factuel, qui était l'assaut des Trois Coups, on va dire un mot quand même sur ce festival des Trois Coups qui a commencé il y a une semaine et qui se termine le 3 avril. Fiona Baucher, cette pièce de théâtre, une joute d'impro, on va commencer peut-être par les pièces, qui les monte et est-ce qu'il y a une sélection?
Alors pour les projets des Trois Coups, en fait, au début de l'année universitaire, on se retrouve, on fait deux réunions. Donc une première réunion, on présente l'association, et la deuxième où justement des étudiants vont présenter leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire. Donc par exemple, quelqu'un a envie de, cette année a voulu par exemple monter 6 personnages en quête d'auteur. Il est arrivé, il a fait bon, j'ai envie de monter 6 personnages en quête d'auteur. Qui est-ce que ça tente? Et là, petit à petit, ceux qui veulent être comédiens s'intègrent dans les projets, etc. Donc après, on a quand même... le bureau des Trois Coups, on va être au courant des projets avant, pour savoir s'ils sont faisables, déjà.
Et c'est quoi un projet qui n'est pas faisable, alors?
En fait, il y a souvent des créations, des étudiants. Cette année, par exemple, il y a Second Rôle, qui a été écrit par une étudiante. Et certaines créations qui, quand on les lit, on se dit ça tient pas la route. Donc après, on conseille la personne, on lui dit, on peut aider, etc. Ils ont plus ou moins bien pris la chose. Mais on veut vraiment aider. Et après aussi, ça dépend du temps. Par exemple, c'est de 20h à 22h qu'on a l'amphi d'accessible. Donc si c'est possible, par exemple, pour 6 personnages en quête d'auteur, il a fallu qu'on lui dise qu'il fallait raccourcir la pièce. Parce qu'elle durait un peu plus de 2 heures, et elle a essayé que ça tienne en 1h30, justement, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. On peut pas aller jouer jusqu'à 23h. La cato ne nous le permet pas.
Il y a eu combien de projets de proposés? Il y en a 8 au total, 7 plus l'ajoute d'impro. Il y a eu combien de projets proposés? Il y en a eu beaucoup qui ont été refusés cette année?
Il y en a un qui a été refusé. En fait, à la base, il y en avait 4 qui ont été acceptés, mais il y en a un par des aléas X et Y de comédiens qui s'en vont au milieu de l'année ou des choses comme ça. Il y en a un qui n'a pas pu être abouti. Donc du coup, on en a 3 vraiment au sein des Trois Coups. Donc 6 personnages en quête d'auteur, Second Rôle qui a été écrit par Emma Clément, donc une étudiante, et Molière au carré qui en fait est une double farce de Molière. Enfin, c'est Bastien Tracou qui a pris 2 farces de Molière et en a fait une. Donc ça marche très très bien, c'est passé mardi dernier. Et sinon, du coup, on invite évidemment les autres associations de théâtre. Et là, on demande plus à qui veut venir jouer dans notre festival. Parce qu'on fait confiance au Tréteau aussi sur leur jugement à eux des projets qu'ils ont. Et les joutes d'impro, ça va faire 4 ans maintenant qu'on en fait. Donc on sait que ça marche bien et qui gère bien le truc.
Belinda Panhaleu, vous montez une maison de poupées d'Henrik Ibsen le 31 mars. D'ailleurs,
oui,
c'est encore passé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'histoire? Et de votre choix.
Une maison de poupées, c'est 5 personnages qui évoluent au sein d'un même lieu, qui est donc la maison des Elmer. Il y a donc une amie à eux qui vient et en gros, c'est un couple où on croit que tout se passe bien, leur vie est merveilleuse. Et les personnages qui vont arriver vont faire qu'ils vont interagir et le vernis va se craqueler tout au long de la pièce. De par Krogstad qui va arriver, un collègue de Thorvald, tout ça, voilà. Le vernis se craquelle et au final, ça va aboutir à l'émancipation, la libération des individus entre eux.
C'est l'autre tous les metteurs en scène, et c'est sans doute une question très naïve de ma part, mais je vous la pose quand même. Comment on s'approprie un texte qui a 150 ans, qui a déjà été monté maintes fois ? Vos inspirations pour monter ce texte ?
Comme inspiration, enfin, mon ressenti, en fait. J'ai pas énormément regardé de mise en scène avant, justement pour pas... pas forcément faire du copier-coller.
On doit avoir une certaine pression quand même à monter ce... Enfin,
un peu quand même.
C'est le 31 mars, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Cyprien Chevillard, je me tourne vers vous. Vous êtes président des Improvisiacs, donc c'est une asso de théâtre d'impro à la Cato. Il y a plein de ligues d'impro à Angers. Il y a la Lima, les Zygomatiques, Quiproquo, et donc les Improvisiacs, j'en oublie peut-être.
Les Vanupiers d'Agrocampus.
Qui font d'ailleurs partie du collectif. Voilà. Comment vous expliquez un tel engouement pour le théâtre d'impro? Et peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu de théâtre d'impro, rappelez les quelques règles. Il y a quand même des règles. C'est pas de l'impro libre comme ça. Il y a quand même un cadre parfois.
Il y a toujours un cadre, dans le sens où ce sont toujours des joueurs qui sont sur scène, souvent en équipe ou dans un style cabaret où il n'y a pas d'opposition entre deux équipes, et un animateur, présentateur ou arbitre qui donne des thèmes, qui en demande au public, des contraintes aussi, qui amène différents types d'improvisation. Et les joueurs, selon les équipes, selon les styles de jeu, ont un petit temps pour réfléchir avant l'improvisation ou démarrent directement sur scène à partir d'une position. Concrètement, ce sont des scènes qui sont toujours inédites, qui n'ont jamais été jouées auparavant. Donc on peut se poser la question de ce qu'on fait en atelier. En fait, on fait des exercices de théâtre, on fait des improvisations, on s'entraîne, on essaye de développer des personnages, des attitudes, des émotions. Pour revenir à votre première question, pourquoi plus d'impro, enfin plus de ligue en ce moment, plus de joueurs aussi, puisque quand je suis entré dans la troupe il y a 2 ans, on était une petite dizaine, et cette année on se retrouve, on est environ 50, enfin on était 50 au tout début de l'année. Je pense que ça tient à plusieurs choses, déjà grâce à des collectifs qui regroupent différentes ligues, on a beaucoup plus de visibilité, et à chaque fois je demandais toujours aux spectateurs, après chaque spectacle qu'on fait, si ça les tentait, et c'est principalement ce genre d'événement qui leur donne envie de monter sur scène, de rejoindre la troupe l'année prochaine. Et après, je pense que peut-être que la télé a joué un rôle là-dessus. La télé, Internet, c'est très facile de trouver des spectacles d'improvisation sur Internet. Ou je pense à la télévision, il y avait l'émission On ne demande qu'à en rire qui passait, je sais plus si ça passe encore. Notamment, il y avait ce comédien Arnaud de Samer qui vient de l'improvisation et qui a vraiment ébloui tous les téléspectateurs. Peut-être que lui a joué un rôle là-dedans.
Il faut un talent particulier quand même, parce qu'on est sans filet. Même si vous parlez d'atelier, d'exercice, on arrive, on a un thème et bam, quoi.
Alors, peut-être, je sais pas quelle est la meilleure qualité, la plus grande qualité d'un joueur d'impro, mais il y a des règles d'écoute. On joue toujours à plusieurs. Elles sont assez rares, les improvisations. On est tout seul sur scène, ça arrive. Mais on est toujours à plusieurs. Donc, déjà, c'est deux idées qui viennent sur scène à chaque fois pour en créer une troisième. Et donc c'est toujours un jeu d'équipe, il y a toujours de l'écoute, et les filets, c'est aussi bien les autres joueurs qui sont sur scène ou qui sont en coulisses, qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Je pense que ça tient là-dessus.
Ça arrive de faire flop, d'être complètement à sec.
Ça arrive. Après, c'est pas bien sûr un drame. Ça peut même être une façon. Il faut toujours savoir rebondir. Après, même quand quelqu'un sort une mauvaise blague, ce qui est évité, bien sûr. Mais on n'est pas non plus. Les joueurs sont pas là pour faire rire obligatoirement. S'ils viennent sur scène pour faire rire, autant faire un one man show. C'est pour faire créer une histoire à plusieurs. C'est ça le but de l'impro, à mon avis.
Cyprien, je vous propose un petit exercice d'impro. Alors, à vos côtés, vous avez Anne-Marie, notre chroniqueuse économie, qui va nous parler des retombées économiques du rattachement de la Crimée à la Russie. Est-ce que vous pourriez nous la lancer ?
Alors, répétez juste la...
Anne-Marie, notre chroniqueuse éco, qui va nous parler du rattachement de la Crimée à la Russie et de ses retombées économiques. C'est pas évident comme thème.
Alors, nous sommes à Sébastopol. Les marins russes rentrent dans le port et un petit escadron de marins de la Crimée, criméens, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle ici, les regardent, ils passent. Ils savent que c'est un jour important, que ce qui se passe en ce moment est très décisif pour le futur de leur pays. Et tout ce qu'ils attendent, c'est l'analyse d'Anne-Marie.
Eh bien, merci. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut penser que l'opposition de la Russie va avoir des conséquences sur les échanges économiques l'opposition de la France va avoir des conséquences sur les échanges économiques entre les pays de la France et de la Russie, donc par rapport à cette histoire de l'annexion de la Crimée à la Russie. Donc, après avoir fait quelques études, je vais vous donner ma réponse. Donc, il faut rappeler que la Russie est aux yeux du monde entier en train de violer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au sein de l'Union européenne, des sanctions légères ont été prises, telles que la mise en place d'une liste de responsables russes et ukrainiens qui sont persona non grata en Union européenne. Donc, impossible pour eux de poser un seul de leurs pieds dans le territoire de l'Europe, sur le territoire de l'Europe. Mais pour François Hollande, l'Union européenne doit préparer des sanctions économiques contre la Russie en cas d'escalade supplémentaire.
Et ce serait quoi ces sanctions économiques ?
Alors on pourrait créer un embargo, donc justement qu'il n'y ait plus d'échanges commerciaux entre la France et la Russie. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait ne plus avoir d'importation russe en France. Donc il y a bien le gaz russe que l'on pourrait ne plus acheter, mais à quel prix ? La France en tirerait un faible bénéfice. Donc concernant aussi les exportations françaises, seulement les exportations françaises vers la Russie ne représentent que 1,8% de nos exportations totales. Donc ça aurait une assez faible influence. Et donc le plus souvent ces exportations sont des Airbus, des préparations pharmaceutiques, du parfum ou des voitures. C'est bien peu. Du coup, pour que cela apporte un coup à l'économie de la Russie, le marché de l'offre est grand, et si la France refuse de vendre quoi que ce soit à la Russie, eh bien, cela aurait forcément des conséquences économiques fatales pour la France. La Russie pourrait se tourner vers d'autres pays pour réaliser des échanges commerciaux.
Est-ce que tu peux nous parler, Anne-Marie, du contrat Mistral ?
Alors justement, j'allais y venir. La Russie avait fait un appel d'offres pour la construction de deux bâtiments de projection et de commandement. En gros, ce sont deux porte-avions et porte-hélicoptères. Alors oui, on peut parler de bâtiments quand on voit des bâtiments, quand on voit des bateaux aussi grands. Enfin, ça fait des centaines de mètres. La France a pour l'instant suspendu ce contrat. Et on a un peu le cul entre deux chaises, si les auditeurs peuvent me le permettre. Si l'on refuse de livrer ces deux navires, et donc si l'on fait acte de conscience, parce que justement il y a cette histoire avec la Crimée, on portera un coup à la Russie qui s'impatiente de recevoir ces navires. D'autant plus que ces navires auront une fonction, un rôle dans cette histoire avec la Crimée et la Russie. D'un autre côté, si ce n'est pas nous qui leur vendons, ce sera un autre pays qui leur vendront des bateaux pour eux. Et si l'on accepte, ces deux bateaux-navires pourraient bien accoster près de la Crimée, comme je l'ai dit. On participerait d'une certaine façon alors à l'annexion de la Crimée à la Russie. En fait, si on les livre, ce serait comme si on armait nos ennemis.
En fait, la France a plus à y perdre qu'à y gagner concernant les deux porte-avions construits par les Russes.
Exactement, cela porterait préjudice à la réputation de la France. Les autres pays acheteurs d'armement pourraient douter de la fiabilité des échanges commerciaux. En outre, la Russie est un grand marché de réarmement naval et l'annulation de cette vente se ferait alors au profit des Sud-Coréens ou des Italiens. En outre, les conséquences sur les échanges commerciaux s'il y a une rupture d'échange entre la France et la Russie seront aussi sur les filiales, les 400 filiales d'entreprises françaises qui sont implantées en Russie et notamment aussi sur les banques françaises qui ont des créances auprès de débiteurs russes. Donc voilà, donc c'est en fait, il y avait bref, la situation va certainement décanter les jours prochains et on va vraiment savoir plus sur c'est l'évolution des échanges commerciaux et de cette alliance économique entre la France et la Russie qui va être décisive pour par la suite, notamment avec le contrat Mistral.
Merci Anne-Marie. Tout de suite, on va marquer une pause musicale dans ce sous-marin sur Radio Campus Angers avec Temples Shelter Song. Parle du festival Les Trois Coups et du théâtre étudiant dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors maintenant, on va faire un focus sur le festival organisé par le collectif Factuel Artefac. Le principe, c'est que les différentes assos du collectif présentent des pièces. Belinda Pont-Halleux.
Oui, donc du coup, les différentes assos, donc les Trois Coups, les Tréteaux de l'Université, les Quiproquo qui viennent d'Agrocampus. Donc les didascalies de l'ESCA, plus donc les différentes troupes d'improvisation, les zygomatiques, les improvisiaques et les vanupiers, donc présentent donc leur projet donc tout le long de ce festival.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le fait d'être réunis en collectif comme ça, ça donnait de la visibilité, et que vous arriviez maintenant à vous produire en fait dans des lieux plutôt sympas, donc le théâtre du Champ de Bataille, le château du Plessis-Massé, puis maintenant l'espace culturel de l'université. Ça change quoi de jouer, je me tourne vers Fiona Baucher, puis aussi vers Cyprien des Improvisiaques, ça change quoi de jouer sur une scène de théâtre, un vrai théâtre, plutôt que dans un amphi?
Bah oui, déjà c'est beaucoup plus valorisant, parce que bon, un amphi, ça reste quand même, enfin si on regarde l'amphi voisin, déjà au niveau de l'acoustique, je crois que tout le monde pourra le dire, c'est pas terrible, donc c'est bien de jouer dans de bonnes conditions, puis même au niveau de l'éclairage, tout ce qui est lumière, il y a beaucoup plus de possibilités. Ensuite, c'est vrai, rien que quand on regarde, quand on est sur scène par rapport au public, quand on est sur scène dans l'amphi, ça reste des tables, des chaises, il y a un écart, enfin c'est pas une salle de spectacle, quoi, clairement. Donc là, c'est quand même beaucoup plus valorisant de jouer au théâtre du Champ de Bataille et au Plessis-Massé, et même à l'espace culturel, la salle est très bien. Donc c'est des bonnes salles bien équipées, en fait. Donc ça change.
Au-delà de la valeur, il y a aussi la différence du public, de la salle, même complètement, enfin juste physiquement, entre jouer dans un amphithéâtre où il faut donner de la voix extrêmement, enfin tout le temps, sous tension vu qu'on n'a pas forcément de micro, et jouer dans une petite salle charpentée comme dans ou peut-être au Plessis-Massé, c'est tout à fait différent. On n'a pas autant de monde, bien sûr, l'amphibasin peut recevoir 300 personnes, les autres on peut recevoir voir une petite quantité, c'est beaucoup plus intimiste, donc les spectacles sont différents, et puis on a un public aussi plus averti, je pense au théâtre, au Plessis-Massé, c'est des gens qui ont plus l'habitude de voir du théâtre, c'est moins des étudiants,
ouais, ça,
ce qui fait que nous aussi, quand on fait de l'impro, on sait qu'on a face à nous des gens qui n'ont pas la même réactivité que des étudiants, qui n'ont pas les mêmes références, donc on a une approche différente aussi.
On s'adapte. Voilà. Justement, au château du Plessis-Massé, j'imagine que quand on y joue, on pense un petit peu au festival d'Anjou, non? On n'a pas un peu mal au ventre?
C'est ça, on a l'impression d'être chez le petit bébé du festival d'Anjou.
Alors, la suite du cursus pour vous, personnellement, là, on sort du rôle de président d'asso et de... Vous êtes dans le théâtre?
Moi, je suis pas dans le théâtre, mais j'ai envie de me diriger vers l'événementiel culturel. Donc, être présidente des Trois Coups, c'était l'occasion aussi. Donc bon, pour l'instant, je suis en infocom, mais mon but après est d'aller faire un master patrimoine et spectacle vivant à la Cato aussi. Donc ce sera dans l'Institut Arts Lettres Histoire, donc je me spécialise après en fait.
Dans votre domaine,
c'est ça.
Et moi de mon côté, eh bien, je suis en art plastique à la Cato. Et j'ai fait des études de théâtre, on a une option à choisir. Mais finalement, là, je me redirige vers l'histoire de l'art, la conservation et la critique.
Belinda Pont-Aleu, pour vous, ce sera le théâtre?
Ouais, de préférence. Du coup, je suis au Conservatoire d'Angers cette année. Et oui.
on va finir en donnant quelques infos pratiques. Donc la prochaine pièce, c'est ce soir finalement. À 20h dans l'amphibasin de la Cato, vous retrouvez Level Geek.
C'est ça. Donc c'est une création d'une étudiante de l'Université d'Angers. Donc ils sont deux sur scène et c'est un spectacle humoristique du coup autour de l'univers geek. Il y a pas mal de costumes, enfin je l'ai pas vu, mais il y a pas mal de costumes et de changements de musique, donc ça a l'air assez dynamique. Donc bon, je verrai ça ce soir.
Et pour Artefacts, ça sera donc à partir du 8 avril au Théâtre du Champ de Bataille, ensuite ça se poursuit au Château du Plessis-Massé, puis à l'espace culturel de l'université. Les infos, bien sûr, c'est sur les sites internet, alors le www.letroiscoups.fr et le www.lesfactuels.fr. J'ai rien oublié. Alors on s'écoute Lali avec Munkili, An Iri Agaran. On est lundi et ce week-end, ce n'était pas qu'un week-end électoral. Non, non, c'était aussi un week-end chargé sur le plan sportif. C'est pourquoi on retrouve Charlotte et Julien pour le débrief. Salut à vous.
Salut.
Oh, c'était beau. On commence aujourd'hui par les Ducs d'Angers. Nos hockeyeurs sur glace ont fait face aux Dragons de Rouen en demi-finale du championnat de France. Après avoir gagné les trois premiers matchs de la série et perdu les deux suivants, les Ducs affrontaient Rouen vendredi soir au Hara. Une quatrième victoire enverrait les Ducs en finale. Pour l'occasion, Radio Campus Angers était de la partie. Alors les amis, dites-moi, comment ça s'est passé?
Eh bien, ça s'est très bien passé, Tiffen. La trop petite patinoire du Hara était pleine à craquer. 200 supporters des Dragons avaient fait le déplacement. Atmosphère électrique pour un match aussi sous tension. Les Ducs n'avaient plus le droit à l'erreur. Bref, le décor est planté. Charlotte, raconte-nous le début de partie.
Tout de suite. Bon. On peut dire que les Ducs se sont mis à la hauteur de l'événement en nous offrant une grande partie de hockey. Ils sont très bien rentrés dans leur match, ce qui n'était pas forcément le cas des deux dernières rencontres, et on a vu le résultat. Le bon début de partie est récompensé par l'ouverture du score de Wolves à la 13e minute de jeu.
À la fin du premier tiers-temps, nos Ducs mènent alors 1-0. Une première période bien maîtrisée qui laisse présager une belle soirée. En second tiers-temps, Johan Skinnars double la mise en trompant le gardien rouennais d'un lancer lointain.
4 minutes plus tard, Jonathan Janil inscrit un but contre son camp. 3-0 pour Angers, le Hara commence déjà à faire la fête. Pas au mieux de sa forme dans le premier tiers, Florent Hardy, notre gardien favori, s'est remis en mode machine en deuxième tiers-temps. Il bloquait les lancers les uns après les autres avec une facilité déconcertante.
C'est vrai que quand Florian Hardy évolue à ce niveau, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Tim Crowder enfonce le clou en marquant un quatrième but pour Angers à la 48e minute de jeu.
Les Rouennais ont tout de même réussi à tromper notre gardien, désigné MVP en juin de la rencontre, en fin de partie.
MVP ?
Meilleur joueur de la rencontre. Donc, victoire 4-1 de nos Ducs qui ont fait le match parfait. Angers élimine Rouen en play-off pour la première fois en 10 confrontations et se qualifie pour la 3e finale de Ligue Magnus de leur histoire.
À la fin de la rencontre, on est allé recueillir les impressions de coach Lacroix qui nous explique comment il compte rattraper la semaine de repos que nos Ducs ont en moins par rapport à Briançon.
Je sais pas, j'ai envie de vous dire peut-être par l'émotion, je sais pas. Écoutez, ces joueurs-là dans le vestiaire, la majorité d'entre eux sont habitués à jouer dans des championnats que tu joues 70 matchs, 60 matchs par année, plus les playoffs. Faut pas se tromper, la cédule ou le calendrier français est très... minime, on joue pas beaucoup de matchs, même si on fait les coupes et tout ça, c'est une quarantaine de matchs pour les playoffs. Je peux vous assurer qu'ils vont avoir de l'énergie encore pour cette match contre Briançon. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est un style différent, Briançon, il faut s'ajuster. C'est une équipe qui donne pas beaucoup de chances de marquer, qui minimise les revirements de situation. Mais j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Je pense que ce soir, je vais en profiter pour relaxer un peu. Et puis, dans les prochains jours, probablement demain, on va commencer à étudier Briançon, continuer d'étudier Briançon plus profondément.
Après avoir éliminé Gap en quart de finale, Rouen en demi, c'est maintenant Briançon qui se dresse sur la route du titre pour nos Ducs. Premier match de la série, mardi, et mercredi à Briançon. Les matchs 3 et 4 auront lieu à Angers vendredi et samedi. Après deux premières finales perdues, il est temps pour nos Ducs de triompher en Ligue Magnus. Alors, let's go Duc, let's go!
Je vois que t'es déjà chaud Julien.
Carrément.
On va suivre cette finale avec attention sur notre antenne, le 103, traditionnelle transition entre le hockey sur glace et le hockey sur roller. Charlotte, donne-nous des nouvelles de nos Hawks.
Eh bien, tout va bien pour les Hawks Tiffen qui jouaient ce week-end en quart de finale de la Coupe de France contre Montchavin. Victoire facile, 12-3. La demi-finale les opposera aux Écureuils d'Amiens.
On poursuit avec notre équipe de foot angevine. Je parle bien sûr du SCO, dont on aurait bien voulu effacer la semaine.
Contrairement aux Ducs, les joueurs du SCO ne sont pas à la fête. On parlait de mauvaise passe la semaine dernière, et bien il semblerait que cela perdure.
Nos joueurs ont joué deux fois en quatre jours, mardi contre Brest, le match doublement reporté, et vendredi contre Niort. Deux matchs, deux défaites pour une seule et même semaine, ça fait beaucoup.
Mardi, le SCO jouait contre Brest. On peut dire que les Bretons, en marquant l'unique but du match, ont fait une bonne opération, puisque cette victoire leur a permis de s'éloigner de la zone rouge. Pour le SCO, cette défaite a surtout miné le moral des troupes.
Un moral qui n'a fait qu'empirer avec le match suivant. Les joueurs de Stéphane Moulin affrontaient les Chamois Niortais, quatrième au classement avant le match. Et là encore, de la déception.
À la 6e minute, les Niortais ont ouvert le score grâce à une magnifique frappe de Salah qui, à 20 mètres du but, frappe sur la transversale. Mais malheureusement, le ballon retombe dans la cage de Maliki.
C'est à la 53e minute que les Angevins ont repris espoir grâce à un but de Socrier. Seulement, voilà, les Niortais ne se sont pas laissés faire et à la 93e minute, ils arrachent la victoire aux Angevins. 2-1 pour Niort et une défaite de plus pour le SCO.
Le SCO a donc échangé sa place avec Niort en se retrouvant maintenant quatrième. On espère que cette mauvaise passe va vite se terminer parce que mardi, ils rencontreront Moulins, une équipe de CFA, pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et vendredi, les Angevins accueilleront Metz, le premier du classement.
Actualité basket ce week-end, l'ABC jouait à Sorgues.
Deuxième défaite de rang pour nos basketteurs qui s'inclinent 95-98 en prolongation après avoir pourtant fait la course en tête une partie du match.
Les filles de l'UFAB, quant à elles, ont remporté une victoire précieuse dans l'optique du maintien face à Mondeville en s'imposant 95-65. On note les performances offensives de Eshdova, oui c'est compliqué, avec 23 points et Murphy avec 19 unités.
N'oubliez pas de supporter nos Ducs demain soir, on compte sur vous. Allez, c'est tout pour cette semaine.
Et c'est déjà pas mal.
Décidément, c'était un peu le refrain du week-end. Merci à vous, amis sportifs. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine. Donc, j'insiste, puisque nous recevions le festival de théâtre Les Trois Coups ce soir, à 20h, vous retrouvez Level Geek dans l'amphibasin de Lucco. C'est entre 4 et 6 euros. Il y a bien sûr le traditionnel blind test au Donald's Pub à la même heure. Et oui, un concours de belote au Welsh à 20h30. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediff demain dès 13h à l'heure du déj sur le 103 FM. Tout de suite à 20h, vous retrouvez Papyrus, l'émission littéraire de Radio Campus Angers. Et à 21h, vous retrouvez Misty, l'émission de jazz. On vous laisse avec la bulle sonore. L'équipe de Sine Qua Non vous parle de la semaine de langue espagnole qui commence ce mercredi aux 400 coups. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Hello. Hola. Welcome to Drive Time Spanish. A great new way to use all of that time you spend behind the wheel to learn Spanish.
C'est aussi la semaine de cinéma de langue espagnole. Il faut dire que c'est jamais évident à prononcer leur semaine thématique aux 400 coups. Donc toute une sélection de films, et on peut retrouver beaucoup de films de ces dernières années dont on a choisi quelques-uns pour vous.
On a par exemple No, de Pablo Larraín, qui était sorti il y a 2 ans, en 2012. C'est avec Gaël Garcia Bernal. Le film avait été très bien accueilli, aussi bien par la presse que par les spectateurs. Et ça parle de la campagne de pub contre la réélection de Pinochet en tant que présidentiel. Ça se passe, c'est pour un référendum, donc organisé par celui-ci, justement. Et ça parle de la campagne de pub contre ça, voilà.
Il y avait un autre film, c'était Rêve d'or de Diego Quemada Díaz, qui était aussi sorti en 2013 et dont on vous avait juste un peu parlé dans l'émission, il me semble. C'est un film sur l'immigration de trois ados guatémaltèques qui vont donc émigrer donc, du Guatemala jusqu'aux États-Unis et qui partent avec l'idée du rêve américain. Mais le voyage ne va pas se passer comme prévu. C'est un film qui est très réaliste et qui est donc assez effrayant sur justement la réalité et l'horreur de l'immigration pour ces Américains, enfin ces gens de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud vers les États-Unis et sur une réalité qui est assez impitoyable.
Je me retrouve toujours enchaîné derrière toi avec des films qui sont beaucoup plus bourrins.
Mais c'est pas grave.
On a aussi donc Rec 3 Genesis, donc faisant suite à Rec 1 et 2. Si vous avez un doute sur ce que c'est, en fait c'était des films d'angoisse, horreur qui se passaient en Espagne. Et du coup, alors pour le Rec 3, c'est encore différent parce qu'on a qu'un seul réalisateur, ils sont deux normalement. Et là, c'est seulement Paco Plaza. Et c'est une espèce de parenthèse dans l'histoire, en fait. On va pas suivre les conséquences directes du 2, c'est une espèce de spin-off ultra gore. Du coup, on n'est plus dans l'angoisse, on est dans les litres et les litres d'hémoglobine.
C'est l'origine, je crois.
Je suis pas sûr.
Parce que, enfin, Genesis, ça.
Oui,
ça,
oui, oui.
Ça me semblait.
Enfin, du coup, les critiques ont été très, très, très diverses, relativement mauvaises, faut le dire, mais il a quand même reçu le prix du public à Gérard Maire en 2008. Donc, c'est quand même une bonne référence aussi. Donc, à voir, au moins. Parce que Rec 4 va sortir dans quelques mois aussi. We all live in a-
yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.